on jase.
Tout ce que vous devez savoir et mettez-en parce qu'il y en a de l'actualité aujourd'hui. Ouh, c'est un lundi occupé, Pascal Séva, hein? Midi 38. Ça chauffe pour toi qui suis l'actualité pour nos auditeurs.
Oui, bon, je t'alerte sur tout ce qui sort et je vous dirais, je vais faire une petite revue des derniers dossiers à savoir. Parce qu'il y en a beaucoup là-dedans qui ont quand même pris d'assaut notre mémoire, notre émotivité, entre autres celui de la fillette qui avait été abandonnée par sa mère du côté de Montréal. Rappelez-vous, elle avait été retrouvée en bordure d'autoroute. C'était 3 jours d'intense recherche. Il n'y avait pas grand-chose qu'on comprenait. On avait presque perdu espoir hein, de la retrouver,
vraiment.
La jeune fille. Et puis finalement, c'est en Ontario qu'on avait réussi avec les policiers à la repérer dans un genre de côté d'autoroute. Elle a passé des journées dans le fossé. Bon, la Montréalaise qui a abandonné sa fillette de 3 ans, elle a 34 ans. C'est une femme qui a reçu son rapport psychiatrique. On était de retour en cours aujourd'hui. Et ce qu'on apprend, c'est qu'elle est non criminellement responsable. C'est tombé. Donc, elle souffrait d'un épisode de manie mixte avec symptômes psychotiques au moment des tristes événements. On dit que ça l'empêchait de distinguer le bien et le mal. Elle a été reconnue non criminellement responsable de négligence criminelle causant des lésions, d'abandon d'enfants. Et c'est à l'accord des parties. Le juge a pris la parole, Bertrand Saint-Arnaud, et a dit « Quiconque prend connaissance là, de toute la preuve, du rapport psychiatrique qui est complet, qui est très exhaustif, ne peut être convaincu qu'il s'agit du bon verdict à rendre. » Donc, il dit « Pour tout le monde, là, c'est sûr qu'on s'en va là, puis tout le monde est un peu en accord avec ça. » Ça reste que quand t'entends ça, t'es un peu troublé. Hein? C'est tout le monde,
vraiment?
Quand ça s'en prend à des enfants, on est comme directement impliqué là-dedans. Faut savoir que la mère a indiqué à la policière qui avait été dépêchée sur les lieux qu'elle n'avait pas dormi de la nuit, que la fille s'était levée, qu'elle a commencé à préparer le déjeuner, elle chantait, elle dansait, puis soudain, elle a eu peur de quelque chose, elle a paniqué, et c'est là qu'elle est partie avec la petite, le chien en auto.
Donc, et puis ça nous fait d'autant plus réagir avec les événements des dernières années, notamment la fillette de Granby et le rapport de la coroner Kamel qui était sorti là, dernièrement. Là. Donc, c'est clair que ça nous crée toujours certaines émotions. Il y a Dominique Laroche aussi qui demeure incarcéré.
Oui, Dominique Laroche reste incarcéré. Il est coupable de crimes sexuels sur une adolescente. C'est l'ex-champion de ski acrobatique. Il va être en détention en attendant de connaître sa peine pour les crimes sexuels. Et c'est ce qu'on a tranché ce matin là, au palais de justice. Vous savez qu'il était... il pouvait recouvrir sa liberté sous condition jusqu'à temps qu'il revienne en cours. Par contre, il avait été amené à l'hôpital, en fait, parce qu'il y avait attenté à ses jours.
Mm-hmm.
Donc là, on a changé un peu le fusil d'épaule. On est allé plus loin parce que c'est de graves infractions. Là. Reconnu coupable de contacts sexuels, d'incitation à des contacts sexuels, d'exploitation sexuelle sur une adolescente proche de la famille. Accusations qui sont passibles d'une peine d'emprisonnement qui va jusqu'à 14 ans. Sinon, autre dossier, encore une fois, un dossier émotif, celui de la tragédie du côté de Laval. Le chauffeur d'autobus qui a tué 2 enfants quand il avait foncé dans une garderie.
Oui.
Bon, il pourrait être incapable de se contrôler face à une autre psychose et on tranche qu'il a commis l'irréparable, mais on a encore peur de cet homme-là. Donc, d'après un psychiatre légiste, on a choisi... que Pierre-Nie Saint-Amand est un délinquant à haut risque. C'est la couronne qui a tranché. Donc, si monsieur n'est pas capable d'identifier les indices précurseurs là, d'un nouvel épisode, c'est là qu'on a une grande inquiétude. Et c'est ce qu'a analysé le docteur Sylvain Fauché. Ça a été fait ce matin au palais de justice dans le dossier de Pierre-Nie Saint-Amand. On témoigne en marge d'une requête de la couronne. On souhaite que l'étiquette de délinquant à haut risque soit apposée à son dossier. Je vous rappelle, il a 53 ans. Et on fera d'autres nouvelles au courant de l'émission, mais je reviens sur ce qui est tombé dans les dernières minutes, dans la dernière heure, au sujet du meurtre à Lévis. Il y a le suspect qui avait des problèmes de santé mentale, donc un homme de 48 ans, connu pour ses problèmes de santé mentale, qui est accusé de meurtre non prémédité. C'est celui qui aurait poignardé un homme de Lévis. Vincent Boulanger, accusé pour meurtre au 2e degré. Il s'agit de sa première infraction au code criminel.
On s'excuse pour ces nouvelles troublantes. Honnêtement, c'est un lundi très lourd dans l'actualité. Malheureusement, il y a des journées comme celle-ci. On va vous tenir au courant là, des développements, comme Pascal vient de le dire. Merci, Pascal, pour cet excellent résumé. C'était à la une, Journal de Québec aujourd'hui. 100 millions de dollars d'investissement pour le quartier Saint-Roch. C'est Bruno Marchand qui promet ceci s'il est réélu comme maire de Québec. Québec et on a le bonheur de recevoir en onde la candidate ex-attachée de presse de Bruno Marchand dans Saint-Roch-Saint-Sauveur pour Québec Fort et Fier, Élanie Lepage. Élanie, comment ça va?
Hey, ça va tellement bien. Ouais. On a vraiment une bonne nouvelle aujourd'hui.
Ben j'ai oui, c'est
le,
ça.
Le topo des nouvelles qui m'a un petit peu mis le cœur à l'envers, mais il faut se rappeler que je suis ici pour parler de bonnes nouvelles pour Saint-Roch.
Exactement. Hey, avant de rentrer dans le vif du sujet de Saint-Roch, je fais un podcast ce soir. Ben, j'ai fait un podcast qui va être diffusé ce soir avec Alicia Despins, conseillère municipale dans Vanier-du-Berger sur les jeunes femmes en politique. Toi, Élanie, tu n'as pas 30 ans, tu décides de te lancer en campagne électorale avec un jeune enfant à la maison. Qu'est-ce qui te motive tant que ça?
Hey, je suis comme un poisson dans l'eau en ce moment. Depuis
ça paraît
que j'ai...
avec ton nom verbal, je te le dis.
J'ai arrêté de travailler en juillet au cabinet du maire en tant qu'attachée de presse. Moi, je reste dans Saint-Sauveur, à la limite de Saint-Roch. Je suis en amour avec la Basse-Ville. C'est la Basse-Ville qui m'a fait tomber en amour avec Québec quand je suis arrivée ici il y a 8 ans.
Nice.
Puis, t'étais où avant?
J'étais à Saint-Jean-sur-Richelieu,
okay,
une banlieue de Montréal.
Okay.
Exact. C'est pas Montréal, c'est la banlieue de Montréal.
Qu'est-ce qui t'a amené à Québec?
Les études. Puis après ça, tout simplement, tomber amoureuse de la ville, la magnifique ville de Québec. Puis, je vous avoue que depuis 4 ans, j'ai adoré mon expérience au cabinet du maire. J'ai appris la machine municipale, j'ai appris la politique aussi, parce que moi, j'ai pas étudié là-dedans. Et j'avoue que je m'ennuyais du terrain. Moi, j'étais une fille de terrain, j'étais une fille de coordination. J'aime ça travailler avec les gens, j'ai travaillé en service à la clientèle, puis c'est ce qui me manquait énormément. Puis là, en campagne électorale, je retrouve ça. Puis ce que j'aime, c'est d'aller rencontrer les gens. Les gens sont remplis de ressources, de solutions, d'idées. Ils rêvent la ville, ils rêvent la Basse-Ville, Saint-Roch, Saint-Sauveur. Je baigne là-dedans depuis plusieurs semaines déjà, puis j'espère pouvoir continuer à baigner là-dedans après le 2 novembre.
Il y a beaucoup de messages haineux sur les médias sociaux à l'heure actuelle envers les politiciens. Bon, je suis les pages de pas mal tous les politiciens. On va parler justement d'un sujet qui amène énormément de réactions, Saint-Roch. Comment tu vis avec ça? Parce que j'en ai vu là, sur ta page des gens qui disent ah, « Vous avez rien fait depuis 4 ans, comment ça? Gang de losers! » Je veux pas répéter les mots les plus gros qui peuvent se retrouver sur ta page. Ça mais va. Comment tu vis avec ça comme jeune femme?
Bien, c'est certain que, bon, au début, quand je suis arrivée au cabinet du maire, moi, certains ne le savent pas, mais j'étais attachée politique et je gérais les réseaux sociaux du maire.
Donc, t'es habituée.
Je suis habituée, je suis consciente de toutes les horreurs qui peuvent prendre place sur les réseaux sociaux. Là, c'est assez raide, des fois.
Puis là, on parle de Bruno Marchand, tu sais, ça n'a pas fait l'unanimité aussi.
Non.
Il y a un tournant à un moment donné. Donc, c'est vraiment ceux de Bruno Marchand, là.
Moi,
la mairie actuelle.
Oui, exactement. Bruno Marchand, maire de Québec, c'était moi qui gérais les réseaux sociaux. J'ai tout vu ça aller, mais j'ai aussi des femmes extraordinaires avec moi dans l'équipe, là, qu'on pense à Bianca Dussault qui en a vécu pas mal, Maude Mercier-Larouche. C'est dommage parce qu'il y a beaucoup de cynisme autour de la politique, puis quand on voit ça aller sur les réseaux sociaux, ça n'encourage pas tant que ça la relève à prendre le flambeau, mais moi, ça ne m'arrêtera pas.
Ben félicitations de prendre justement le flambeau. Moi, j'ai énormément de respect pour les gens qui se lancent en politique. Je l'ai toujours dit, peut-être au tournant de mes 50 ans, ça sera un lancement politique pour moi. Ça fait partie de mes objectifs. En attendant, je regarde ça du coin de l'œil puis je le commente. Alors, bravo. Puis honnêtement, on le rappelle aux gens, vous avez le droit d'avoir des opinions différentes, vous avez le droit de loger politiquement ailleurs, mais la haine et les commentaires disgracieux n'ont pas leur place dans notre système politique. On a un système démocratique et il faut justement parler d'idées, débattre de nos idées, mais pas rentrer dans des propos haineux.
Puis je le dis souvent aux gens que je rencontre, t'sais, les citoyens, les commerçants, les organismes, si je suis élue le 2 novembre, on sera pas toujours d'accord, mais je vais toujours être ouverte à la discussion, peu importe, tant que c'est courtois puis qu'on tombe pas dans la haine. Parce que tout le monde a droit à ses idées, là. C'est pas parce que j'ai une idée que c'est la meilleure pis c'est la seule qui compte. Au contraire, c'est ce qui fait la beauté d'une communauté. Bref, tout ça pour dire que la haine, ça n'a pas sa place.
Non.
Souvent, la ligne est mince entre vouloir gérer une ville ou une fois qu'on est élu, là, en fonction de ce que les gens, mais pour toi, ça va être Saint-Roch, si ça fonctionne et tout ça, souhaitent. Mais en même temps, il y a toujours l'en arrière, hein? Puis il y a le parti aussi, la voix de parti. Comment est-ce que tu vas, si tu es élu, être capable de jongler entre ce que les gens te demandent, puis des fois l'incapacité de le livrer parce que ben faut que tu suives ta ligne de parti et où tu suives ce que tu es capable de réaliser?
Ça me fait... C'est toujours... La ligne de parti, je vous avoue que c'est pas quelque chose qu'on connaît chez Québec Fort et Fier. Bien honnêtement, là, chaque conseiller municipal a sa voix, peut porter le message qu'il le souhaite et qu'il est allé chercher auprès des citoyens. Parce que les gens qui siègent au comité exécutif ont leur mot à dire, peu importe quelle est leur opinion. On peut penser Jean-François Gosselin, Bianca Dussault, qui étaient un peu aux antipodes de nous en 2021. Ben, quand ils sont arrivés à la table des discussions, ils avaient leur mot à dire, ils avaient leur place, ils sont entendus. On est vraiment chanceux de pouvoir compter sur une équipe qui est aussi variée chez Québec Fort et Fier. On a des gens du centre-ville, on a des gens de la périphérie, on a des gens qui sont ancrés dans leur milieu puis qui ont des milieux de vie différent. Là, je veux dire, moi, j'ai choisi de vivre au centre-ville. C'est pas le choix que ma collègue Marie-Pierre Boucher a fait dans Louis XIV à Charlebourg, tu sais. Donc, tous nos points de vue sont valides. Puis, les conseillers municipaux, on porte la voix des citoyens qu'on rencontre au café, qu'on rencontre à l'épicerie, qu'on rencontre sur la rue, sur le trottoir. Donc, on n'est pas dupes. Puis, c'est pour eux qu'on est élus. C'est pas pour la ligne de parti. Mm-hmm. Puis au final, ce que tout le monde souhaite, c'est de faire de Québec un lieu encore meilleur, encore plus vivant, encore plus fort, encore plus fier.
As-tu l'impression d'arriver dans le momentum parfait? Parce que les travaux sur Saint-Vallier-Ouest vont être terminés dans Saint-Sauveur. Là, Bruno Marchand annonce 100 millions pour Saint-Roch. Coudon, il aimait pas Pierre-Luc Lachance, Bruno Marchand?
Pierre-Luc Lachance a fait vraiment beaucoup dans les dernières années. C'est d'ailleurs grâce à lui que Saint-Vallier-Ouest va être revampé avec plus de verdure, avec des bacs de rétention, avec du pavé, des larges trottoirs sur lesquels on peut déambuler facilement.
Un beau projet pour les jeunes familles dans Saint-Sauveur, ça c'est clair, je l'ai toujours dit.
Et pour les commerçants. Ensuite de ça, le 100 millions, c'est un plan qu'on a pour les 4 prochaines années. Ce que le maire a annoncé ce matin, c'est notre vision pour Saint-Roch. On le sait, on n'est pas dupes. Je veux dire, moi, je vis dans le quartier. J'ai vu les changements sociaux dans les dernières années. Puis ce qu'on a présenté aujourd'hui, c'est notre plan pour l'avenir.
Ouais. Question d'un auditeur, puis je la trouve très pertinente. Il y a un an à peine, le maire Marchand disait qu'il n'y avait pas de problème à Saint-Roch. Alors, comment ne pas être cynique avec le 100 millions? Là, tu hoches la tête. Non. Mais est-ce qu'en politique, on essaye toujours pareil d'essayer de garder ça le moins lettre possible, je vais le dire de même?
C'est une bonne question. En fait, le maire n'a jamais dit que tout allait bien puis tout était rose dans Saint-Roch. On a toujours été extrêmement lucide de la situation. Qu'on pense à la crise du logement, la crise des opioïdes, la montée de l'itinérance. Il y a eu une conjoncture assez intense dans le centre-ville. On en a toujours été extrêmement conscient. Cela étant dit, je pense que de dire sur toutes les tribunes que Saint-Roch brûle n'est pas nécessairement la solution parce qu'on vient exacerber le problème. Les gens, ça crée une certaine crainte chez les citoyens de la banlieue, de la périphérie, qui se disent « Ah, je veux pas aller au centre-ville, c'est dangereux », alors que, tu sais, oui, il y a certaines insécurités qui peuvent naître, mais moi, je me promène là à toutes les semaines avec mon garçon, puis je personnellement, ne vis pas l'insécurité que certains ont pu décrier, alors qu'elle peut être tout à fait légitime.
L'itinérance, t'as qui le dossier de l'itinérance, à qui ça appartient? Parce que Bruno Marchand avait dit itinérance zéro. Bon, somme toute, l'itinérance a augmenté dans les 4 dernières années. C'est à qui que ça appartient, puis comment on travaille ça?
C'est un travail d'équipe, mais le joueur majeur, principal, c'est le gouvernement du Québec. Parce que nous, les municipalités, on peut mettre plus d'argent pour avoir la patrouille multi des policiers qui se promènent à pied plus nombreuses. On peut mettre en place l'école bleue qui passe plus souvent sur Saint-Joseph pour venir nettoyer la rue. On peut financer la brigade Saint-Roch. Je l'ai vu, moi, depuis que la brigade de propreté Saint-Roch, je pense que j'ai jamais vu Saint-Joseph aussi propre depuis 8 ans. T'sais.
C'est une bonne nouvelle.
C'est vraiment une excellente nouvelle. Fait que nous, on a certains leviers. Par contre, on n'a pas de travailleurs sociaux. On n'a pas d'hôpitaux. On n'a pas... Il y a beaucoup de choses qui relèvent du gouvernement provincial. Le maire Marchand a été le maire qui en a le plus parlé au Québec au cours des 4 dernières années pour dire au gouvernement « Aidez-nous ». On veut aider les citoyens à sortir de la rue, on veut freiner l'hémorragie parce qu'il y en a trop qui rentrent dans la rue, mais on ne peut pas faire ça tout seul en tant que municipalité. Puis, si ça n'avait pas été de Bruno Marchand, on n'en aurait pas autant parlé, alors que la crise de l'itinérance, elle se vit dans toutes les municipalités
du Québec. Toi, t'es-tu satisfait du gouvernement du Québec? Parce que moi, je suis insatisfait, là.
Je pense qu'il y en a beaucoup à faire. Il y a énormément de travail à faire. Nous, il y a 3 fronts sur lesquels on peut essayer de mitiguer l'entrée des gens dans la rue. Il y a plus de services en santé mentale. Ça manque. Il y a essayer de donner un petit peu plus de pouvoir d'achat aux citoyens parce qu'on sait que l'inflation a galopé dans les dernières années. Et il y a offrir du logement. Nous, le seul des 3 sur lesquels on peut vraiment jouer, c'est en offrant du logement social. Ce que le maire a annoncé ce matin dans Saint-Roch, seulement dans Saint-Roch, parce qu'on a le pied dans le fond pour le logement partout sur les territoires de la ville, c'est 1 800 logements, dont 32 % seront du logement social et abordable et communautaire qui serait accessible. Donc, on fait notre part. On a triplé les montants en logements sociaux dans les 4 dernières années depuis qu'on est arrivé parce qu'on est conscient que ça a un impact direct dans la vie des personnes en situation d'itinérance ou marginalisés ou plus vulnérables. Mais on va avoir besoin du gouvernement du Québec pour nous aider là-dedans et qu'il en fasse une priorité nationale.
Ils semblent dire que c'est leur priorité aussi parce qu'on voit l'itinérance un peu partout, en région également. Quand on voit que c'est un Canadien sur 10, environ 11 % qui a déjà vécu une forme d'itinérance au cours de sa vie, puis ça, c'est des statistiques qui sont sorties, là. C'est en 2021. Alors, dites-vous qu'une personne sur 10 en 2021 disait avoir vécu une forme d'itinérance dans sa vie. On est rendu en 2025, ça explose partout. La province, c'est une chose au municipal de construire des logements sociaux. On sait que c'est une façon d'aller aider. Mais initialement, il y a quelque chose qui se passe à Québec pour que ça ait pris autant d'ampleur. Je ne peux pas croire que c'est juste une migration de Montréal à Québec. Qu'est-ce qui s'est passé ici?
Mais c'est pas juste à Québec, hein. Rimouski a ouvert, je pense, la semaine dernière, son premier lieu d'hébergement.
Mais ici, qu'est-ce qui s'est passé?
La même chose que partout dans les autres centres-villes du Québec, du Canada et de l'Amérique du Nord. Avec la pandémie, revenons 4 ans en arrière. Quand on a été élus, je dis « on » parce que je faisais partie de l'équipe, quand on a été élus en 2021, on avait encore des masques, il y avait encore des confinements. Les mesures sanitaires ont été levées en 2023, puis c'est à partir de là qu'on a été capable de prendre la pleine mesure de l'impact que la pandémie avait eu sur les crises sociales, économiques aussi. Je veux dire, l'économie a été assez difficile et tumultueuse dans les 4 dernières années. Il n'y a personne qui aurait pu prévoir que ça aurait cet impact-là sur nos centres-villes. D'abord parce qu'il y a la crise du logement, l'inflation, l'épicerie coûte plus cher, les loyers ont monté. Mais on peut aussi se rappeler que le commerce de détail a grandement été affecté par la pandémie. Les gens ont commencé à acheter en ligne, ils vont moins sur les artères de proximité, vont moins acheter dans les boutiques. Ensuite de ça, il y a aussi eu le fait que les gens, quand Saint-Roch a été relancé, fin 90, début 2000, grâce au maire Lallier, ils ont beaucoup misé sur les espaces à bureau, hein, des travailleurs qui viennent dans Saint-Roch, qui travaillent dans Saint-Roch, qui mangent au restaurant le midi. Avec la pandémie, ça a aussi changé les habitudes de travail. Les gens ont commencé à faire du télétravail plutôt que de se déplacer. Ça a donc diminué l'achalandage au centre-ville, ce qui a aussi exacerbé la situation. Puis un centre-ville, c'est le reflet exponentiel des crises qu'une communauté peut vivre. Hein. C'est vraiment comme un microsystème où tout est amplifié. Donc, la crise du logement, elle est amplifiée dans Saint-Roch. Les changements d'habitude chez les commerces de détail, elle est amplifiée aussi. Bref, tout ça pour dire, il s'est passé beaucoup de choses socialement et économiquement au cours des dernières années que personne n'aurait pu voir venir. Et là, on en a pris la pleine mesure. On a travaillé avec les acteurs du milieu pour trouver des solutions. Puis on présente aujourd'hui le plan de match.
Je termine avec le parc Jean-Paul Lallier. Oui. Est-ce que on va remettre la fontaine rapidement en marche, parce que, puis là, je te taquine, là, mais t'as pris des photos à ce moment-là où c'est sorti dans le soleil, des belles images. Moi, j'en ai pris des moins belles. Fait que, dépendamment de comment on regarde le parc Jean-Paul Lallier, on le voit pas du même sens. Est-ce que c'est une priorité pour toi?
En fait, l'ensemble des infrastructures de proximité seront au cœur des priorités. On parle, ce matin, le maire a annoncé 100 millions sur plusieurs années. Avec 5 parcs. C'est pas sur 4 ans, les 100 millions, on s'entend, c'est sur un peu plus qu'une décennie. On veut réaménager le parc Jean-Paul Lallier, le parc Gilles-la-Montagne, la Marina Saint-Roch, si vous êtes allé cet été, là, on commence à avoir besoin d'amour.
Absolument. A besoin d'amour.
La place Jean-Cartier, il faut qu'on réfléchisse ces services de proximité-là pour que ce soit agréable pour l'ensemble des citoyens. Le parc Jean-Paul Lallier fait partie de ce qui va être revitalisé. Est-ce que 3 millions dans une fontaine, c'est raisonnable dans le contexte actuel? Je ne crois pas. Je pense qu'on est, en fait, pour vraiment honorer la mémoire de M. Lallier, on devrait faire de ce parc-là une pierre deux coups. Pourquoi est-ce qu'on ne le réfléchit pas en faisant un espèce de bassin de rétention? Quand il y a eu des grandes crues d'eau ce printemps, début de l'été, il y avait des chutes dans la rue.
C'est vrai que c'est le tramway, le fameux tunnel du tramway qui retarde tout ça?
Ça, je vais vous laisser la ville vous répondre là-dessus, mais c'est certain que le tramway va passer à côté, donc ce ne serait pas super intelligent de dépenser, mettons, 3 millions pour après ça l'arrêter puis devoir remettre de l'argent. Il y a quand même un souci là, du portefeuille des citoyens.
Hélène Lepage, merci de te présenter en politique. Honnêtement, j'encourage tous les gens à le faire. On le répète, discuter de sujets, discuter d'enjeux, mais faites-le avec classe, faites-le de façon démocratique. On est dans un beau système démocratique qu'on ne veut pas perdre. Alors, les commentaires haineux sur les médias sociaux n'ont pas lieu. Merci en tant que jeune femme de t'impliquer en politique.
Merci.
Je te sens rayonnante, je te sens prête pour cette campagne électorale-là. Je te souhaite bon succès, puis au plaisir de se reparler.
Merci infiniment.
Ça me fait plaisir que je sois celui que moi et Pascal, on soit ceux qui te permettent de casser la glace en radio.
Plaisir partagé.
Yes, merci beaucoup. Hélène Lepage, qui est candidate pour Québec forte et fière dans Saint-Roch, Saint-Sauveur, ex-attachée de presse de Bruno Marchand, qui saute de l'autre côté de la clôture, Pascal, toi qui es une jeune femme aussi de 30 ans, ça t'inspire-tu?
Ben moi, je trouve ça le fun aussi de voir à quel moment elle s'est dit non, moi en arrière, c'est pas assez. Je veux être en avant.
Ouais.
Parce que souvent, il y en a qui vont préférer rester dans l'ombre longtemps. Mais dans l'ombre, ça embrasse des affaires, même peut-être plus des fois que sur le terrain.
Exactement. Fait
que là, elle est où la mesure de poids? Je pense qu'elle va y goûter dans les prochaines semaines, puis elle va pouvoir commenter ça aussi tout au long.
Hey, en plein ça, puis je rouvre son micro 2 secondes. On fera un podcast ensemble après ta campagne électorale. Je veux savoir comment une jeune femme a vécu cette campagne électorale-là.
Absolument, avec un bambin de 2 ans.
C'est ouais, sportif. C'est ça, avec un bambin de 2 ans dans un quartier central où il y a énormément de critiques. Donc, je veux savoir ça.
Parfait.
C'est bon? C'est un bon rendez-vous? Ouais. Excellent. Good. Salut, Lenny. Merci beaucoup. Pascal, tu as rencontré une autre jeune femme, toi, qui a vécu tout qu'un événement, c'est-à-dire... Non, on va y aller tout de suite. Oh, oui.
Okay.
C'est-à-dire que... je suis pas... on va y aller après la pause.
Moi aussi, je pense.
Oui, c'est ça. Tu viens de me faire un signe, j'avais mal compris.
Oui.
Je m'excuse, on y va après la pause.
On y va après la pause.
Avec ton dossier, mais, parce que tu as rencontré... Mais fais-nous un résumé de ton dossier qui s'en vient.
J'ai parlé à Claudia Boucher. Ça vous dit rien, c'est normal. C'est pas une superstar, c'est pas quelqu'un qui marque votre actualité. Mais sans que vous le sachiez, c'est une femme miraculée qui a probablement aidé à ce que certains de vos enfants ou des enfants que vous connaissez aient encore une vie. Pas parce qu'elle a choisi, mais parce qu'elle était au mauvais moment, à la mauvaise place. Rappelez-vous l'accident il y a quelques jours dans le Binière où il y a un poids lourd qui a foncé à toute vitesse dans une voiture. Voiture qui a été coincée entre un autobus scolaire avec une 20aine d'élèves à bord. Elle s'est ramassée en porte-à-faux, entre les deux. Là.
Ouais.
Donc, ramassée comme la crème du Oreo, là. Mais pas à peu près. Miraculée. Elle s'en tire, elle n'a pas de blessure, rien. On est allé faire, bien sûr, tout ce qu'il faut à l'hôpital. Chose certaine, elle a un témoignage assez poignant à livrer parce que ça ne doit pas réarriver. Mais c'est pas la première fois qu'on a des accidents avec les poids lourds ici au Québec. Puis on se rend compte qu'il aurait probablement pas freiné. On va l'écouter de l'autre côté de la pause.
Merci beaucoup, Pascal Cévé. On aura également Frédéric Maheu, qui est président du syndicat des ambulanciers ici à Québec, qui va venir nous parler des problématiques à la centrale 911 ici à Québec. Vous êtes sur les ondes de Boulevard 101. C'est l'émission On en jase.